FM, c'est le MAG, tous les jours, 12h, 12h30.
Dans ce MAG, on fait un exercice spécial service civique. Bonjour Henri.
Bonjour.
La semaine dernière, moi j'ai collé un micro-cravate à Valérie Rabault qui était en train de faire une réunion publique de restitution, on va dire. C'est une élue de la République, elle va rendre compte de ce qui se passe à l'Assemblée nationale en matière de discussion de la loi NOTRe, la nouvelle organisation territoriale de la République, et comme il y a des amendements que ça discute, etc., elle fait le tour des élus territoriaux, des élus des communautés de communes, et elle vient leur expliquer où ça en est. Et alors l'exercice pour toi, qui n'a pas assisté à cette conférence, c'est de l'entendre et d'en extraire de quoi faire une émission de radio. On ne va pas diffuser l'intégralité de toutes les conférences de la Terre non plus. Et alors, c'était compréhensible la loi NOTRe, juste en l'écoutant ?
Oui, oui, une fois qu'on a fait le tour et qu'on a retiré toute hésitation et toute la politesse avec laquelle on essaie de présenter un projet de loi pareil à des élus locaux comme ça, oui, oui, c'était assez lisible.
Bon, on va voir si les auditeurs ont le même avis. On va découper ça, quoi, en quatre petites parties, histoire de souffler de temps en temps. Mais là, donc, on a Valérie Rabault, lors d'une, je sais pas si on peut appeler ça une conférence, parce que même si elle a fait du PowerPoint pour montrer les chiffres, à la fin, c'était surtout question-réponse.
Oui, c'était une réunion d'information, quoi.
C'est parti, Valérie Rabault, c'était le jeudi 5 février à la salle des Thermes Saint-Antonin et il y avait dans la salle une bonne cinquantaine d'élus, de responsables d'associations, de citoyens intéressés qui venaient écouter et poser des questions.
Bonsoir à toutes et tous, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, parce que je vois aussi qu'il y a des citoyens qui sont venus parler de cette fameuse loi NOTRe. Donc c'est la deuxième réunion que j'organise pour vous dire un peu ce qu'il y a dans ce projet de loi. Donc juste un petit point sur l'historique quand même. En 30 ans, puisqu'on a commencé la décentralisation, je rappelle qu'avant c'était quand même le préfet qui décidait de tout. Donc les élus, les maires devaient effectivement répondre au préfet. Donc en 30 ans, on a quand même réussi à faire 12 lois de décentralisation depuis 1982. Donc celle dont je vais vous parler ce soir, c'est la 12e. Évidemment, elles ont fait différentes choses. Bon, la première, c'est quand même la plus visible, celle de 82, où effectivement, on supprime la tutelle administrative du préfet. C'est à ce moment-là que les régions dont on parle, qui sont assez jeunes, puisqu'elles ont été créées en 72, les régions ont été transformées en collectivités territoriales. Et puis, c'est le moment aussi où il y a eu un certain nombre de transferts de missions, les fameuses compétences vers les collectivités territoriales. Ensuite, en 92, puis en 99, il y a les passions de 3 niveaux d'intercommunalité avec des compétences qui peuvent être à la fois obligatoires, optionnelles. Donc, je ne les ai pas toutes résumées, mais en tout cas, il y en a eu 12 depuis 30 ans. En 2003, il y a une réforme constitutionnelle. Sur leurs finances, les collectivités locales sont maîtresses, même si elles ont une partie de dotation de l'État. Si elles décident d'augmenter les impôts, elles sont libres de le faire pour pouvoir financer les projets qu'elles souhaitent. Et ça, c'est quand même dans l'article 1 qui les concerne. La dernière, c'est 2010. Donc cette loi 2010, même s'il y a des choses qui ont été changées, il y a un point qui est resté, c'est que le fait que nos cantons, donc les fameux découpages que nous connaissions ici depuis plus de 200 ans ou à peu près, sont morts, qui a amené à recréer ces cantons. Alors vous avez pu me dire, mais on aurait pu les recréer comme ils étaient avant. Eh bien non, parce qu'il y a un article dans la Constitution qui exige l'égalité pour chaque citoyen devant sa représentation, et donc du coup il a fallu prendre en compte les populations qui pouvaient exister sur les différents territoires. Alors les 3 qui ont été proposés par cette législature, c'est la première, c'est la création de la métropole. Donc nous, ça ne nous concerne pas trop, même si on a quand même une métropole qui est Toulouse, pas très loin de chez nous, avec un certain nombre de compétences. Et la transformation des pays en pôle d'équilibre territorial et rural, en fait, ça ne change rien, puisque les pays peuvent toujours faire ce qu'ils veulent et avoir les compétences qu'ils souhaitent. Donc ça, pour ce point-là, ça ne change rien par rapport à ce qui existe aujourd'hui. La deuxième, qui a été promulguée il y a quelques jours, le 16 janvier 2015, c'est la création des 13 régions. Donc nous nous marions avec Languedoc-Roussillon. Je pense que Toulouse devrait quand même rester capitale, c'est quand même la 4e ville de France. Et celle dont on parle maintenant, c'est la loi qui s'appelle la nouvelle organisation territoriale de la République. C'est un mot, je trouve, assez ambitieux, notamment par rapport à ce qui est proposé. Donc, que nos collègues sénateurs ont déjà vu, sur laquelle ils ont apporté des modifications et qui, du coup, maintenant arrivent à l'Assemblée nationale. Peut-être un petit rappel des dates. Création des nouvelles régions, ce sera effectif au 1er janvier 2016. Et le transfert des départements aux régions, aux métropoles, enfin de certains nombres de compétences, c'est le 1er janvier 2017. Donc ce dont on discute là, c'est effectivement pour dans 2017. Enfin, pour en 2017. Sur lequel, je vous avoue, vos collègues élus de Nègrepelisse, Monclar, m'ont un peu surprise, c'est donc la taille des intercommunalités. Alors, le texte de loi disait, il faut, aujourd'hui, donc, il faut que les intercos aient une taille minimum de 5000 habitants. Et dans ce que dit la loi, elle propose de monter jusqu'à 20 000. Bon. Alors, le Sénat, lui, a dit... Donc ça, c'était le texte du gouvernement. Le Sénat a voté un certain nombre d'amendements et a dit « Non, non, il n'y a plus de la taille minimum à 20 000, on l'a fait sauter. » Et donc, on en reste aux 5 000 que nous connaissons aujourd'hui. Alors, pour en avoir parlé avec Olivier Dussopt, qui est député de l'Ardèche et qui est aussi rapporteur du texte de loi, et qui en plus est le président de l'Association des petites villes de France. Donc il me dit que lui, il serait intéressé pour qu'on regarde, enfin qu'on fasse un certain nombre de dérogations, c'est-à-dire qu'on autorise des intercommunalités à ne pas grossir ou à pas se marier avec d'autres, si elles respectent un certain nombre de critères qui pourraient être des critères de densité de population. Alors, densité de population, soit comparée par rapport à la densité nationale en France, soit comparée par rapport à la densité du département.
Attends, dis-moi Henri, là, ça va pas être simple de vouloir faire une loi pour l'ensemble d'une carte de France et en contenant les dom-tom aussi, hein, et puis que, pareil, une ville où on habite sur 5 étages, et puis des zones où il y a un bonhomme tous les 2 kilomètres. Alors le soi-soi, comment il peut y avoir une loi et d'emblée prévoir des dérogations? Ça veut dire que la loi, elle marche pas.
Bon, ben, les lois, elles sont... Ça va peut-être être un peu stéréotypé, ce que je dis, mais les lois, elles sont dessinées et pensées à Paris, mais évidemment, il faut prévoir le fait de faire de la place pour pouvoir faire des nuances, parce que on peut pas penser au cas par cas quand on dessine les prémices d'une loi, on est conscient de toutes les choses qu'il y a à faire. Donc,
dans la loi, il faut déjà prévoir les critères de dérogation, c'est ça?
Ah, en tout cas, il faut prévoir de la place et il faut s'attendre à ce qu'il y ait des retouches et des modifications à faire. Hein. Oui, bien sûr.
Alors, cette idée d'amendement de faire en fonction de la densité de population, c'est un truc qui risque de bouger. La démographie nous apprend, c'est justement la densité de population. Comment on peut prévoir un truc qui prévoit pas qu'on prévoit le changement?
C'est le travail d'un politicien, ça. C'est pour ça que c'est une profession qui marche aussi bien, d'ailleurs.
Ah oui, le changement, c'est lentement, alors. Bon, alors, comment on s'y prend pour nous donner des idées, que ça soit l'une solution, soit l'autre?
Elle développe les idées qui sont proposées et elle le fait assez clairement. C'est vrai qu'il y a des choses intéressantes dans les amendements qui sont déjà en train d'être pensés, qui ont plus l'air de faire partie intégrante de la loi tellement elles sont pertinentes qu'elles ont l'air d'amendements, en fait.
Bon, on écoute le développement.
La première solution, c'était de dire toutes les communautés de communes qui ont une densité de population inférieure à 50% de la densité nationale pourraient bénéficier de la dérogation, c'est-à-dire qu'elles ne seraient pas obligées de se marier avec d'autres communes ou une autre communauté de communes. En Tarn-et-Garonne, il y a deux communautés de communes qui sont au-delà de 20 000 habitants. C'est donc Montauban, que vous voyez là, et Castelmoissac. Le Quercy-Caussadet, Caussade est à 19 500, donc se rapproche bon an mal an des 20 000, du seuil des 20 000. Toutes les autres, c'est-à-dire les 12 autres, elles n'atteignent pas le critère des 20 000. Donc ça voudrait dire que toutes les autres, si on conserve la loi, enfin en tout cas le texte de loi tel qu'il avait été proposé, mais qu'on va modifier, ça veut dire qu'il faudrait qu'elles cherchent à s'agrandir, soit à se marier avec d'autres communes ou avec d'autres communautés de communes. Voilà, donc ça c'est le commencement. Si maintenant on prend le premier critère, qui est de dire, donc ça c'est pas encore dans la loi, mais c'est ce que moi je peux proposer si vous en êtes d'accord, de dire une communauté de communes qui aurait une densité de population inférieure à 50% de la densité nationale, alors elle ne serait pas obligée de respecter ce critère. Donc là, si on applique cette dérogation ici en Tarn-et-Garonne, on aurait 8 communautés de communes qui ne seraient pas obligées de... Enfin, qui pourraient bénéficier de la dérogation, dont évidemment celle-ci. Deuxième possibilité, Si maintenant on dit, au lieu de prendre 50% de la densité nationale, on prend 50% de la densité départementale. Alors là, on n'en aurait plus que 4 qui pourraient bénéficier de la dérogation, dont celle-ci. Donc, quelle que soit à la limite le cas là-dessus. Et puis, il pourrait y avoir des abaissements de seuil à 15 000 habitants. Bon. Alors, quand j'ai dit ça à vos collègues de Nègrepelisse-Caussade, eux, ils étaient assez satisfaits du critère à 20 000, dans le sens, alors majoritairement, je vous le dis au global, dans le sens où on dit plus on est gros, plus dans le fond on peut avoir de compétences et de moyens. Et puis, ils disent, s'il y en a qui sont gros et d'autres qui restent plus petits, par exemple, je sais pas, si on prend la plus petite, c'est Pays de Serre, c'est donc Montaigu-Lozère, ils sont à 4000 habitants, qu'est-ce qu'ils feraient dans un paysage départemental où ils resteraient plus petits tout seuls? Enfin, voilà, c'est vraiment la réflexion qui a donné lieu à discussion, c'est de dire, si dans un département, vous avez donc le Grand Montauban, bien sûr, qui est très important, Castelmoissac, qui va avoisiner les 26-27 000, Caussade et sa communauté de communes à 19 500, bon, mettons 20 000, et tous les autres, est-ce que, dans le fond, on peut avoir des communautés de communes qui soient de taille plus petite, si elles continuent, bien entendu, à vivre leur vie? Moi, je serais quand même d'avis de dire qu'il faut que l'État prennent à sa charge un certain nombre de missions qui ne seraient pas déléguées. Je vais prendre un exemple assez concret, le recrutement de quelqu'un qui s'occupe des permis de construire ou de l'étude de l'urbanisme. Si vous êtes une communauté de communes à 20 000, vous pouvez peut-être le financer. Si vous êtes à 4 000 ou 5 000 habitants, c'est quand même plus compliqué de pouvoir le financer en termes de budget. Enfin, voilà la simulation qu'on a faite. Et donc, ça en permettrait à 8 de bénéficier de la dérogation. Deuxième chose qui est dans ce projet de loi, c'est l'idée de dire qu'aujourd'hui, vous avez sur 9, vous avez 4 compétences obligatoires que vous avez été, obligé, incité à transférer à la communauté de communes. Dans le projet tel qu'il est sorti du Sénat, proposé par le gouvernement, il y en aurait 11 qui seraient sur la liste et 6 qui devraient obligatoirement être transférées à la communauté de communes. Sur les 2 qui ont été rajoutées, il y a la promotion du tourisme et les aires d'accueil des gens du voyage qui sont ajoutées. Pour l'instant, après, vous pouvez me dire que vous n'êtes pas d'accord et je déposerai un amendement pour dire, non, on reste à 9 ou il n'y en a que 4 sur les 11. Enfin voilà, tant que la loi n'est pas écrite, on peut encore faire des choses.
CFM, le MAG, tous les jours, 12h, 12h30.
Valérie Rabault, députée du Tarn-et-Garonne, est en train d'expliquer aux élus la réforme en matière de taille des communautés de communes. Elle va évoquer les départements et les régions.
Oui, elle va évoquer les départements et les régions, elle va faire le tour de son sujet de façon assez complète.
Le sujet, c'est la nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, et elle évoque les départements.
Deuxième sujet, maintenant qui concerne les départements. Alors, il y a l'idée dans le texte de supprimer la clause de compétence générale. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple très concret, aujourd'hui, vous avez une agence de développement économique à la région, une au département, et une, au Grand Montauban. Toutes ces instances-là peuvent subventionner les entreprises. Alors, selon des critères qu'elles définissent, mais enfin bon. Et puis, à la fin de la journée, on se voit qu'en fait, on empile un peu sur les aides un peu sur les mêmes personnes. Donc l'idée de la loi, c'est de dire qu'il faut que chaque niveau de collectivité ait ses propres compétences. Donc typiquement, les départements ne pourront plus subventionner les entreprises, si le texte est voté en l'état, je le répète, ça c'est vraiment un projet de loi. Il y aura néanmoins 2 exceptions. Les départements pourront toujours continuer à subventionner les communes dans leurs travaux, ce qui à mon avis pour les plus petites communes est très important, parce que vous n'en faites pas tous les jours des travaux, mais quand vous en faites, c'est quand même par rapport au budget d'une commune à taille réduite, c'est quand même assez important. Et pourront toujours continuer à subventionner les associations culturelles, sportives et celles qui sont en lien avec le tourisme. Alors typiquement, ici, ça pose une question sur les associations qui sont en lien avec l'enseignement. Je pense par exemple à la Ligue de l'enseignement. Alors, je ne sais pas si vous travaillez avec ou d'autres associations, notamment pour les rythmes scolaires. Là-dessus, il y a un certain nombre de mails que j'ai reçus de ces associations disant « Nous, on n'est pas, on aimerait pouvoir l'étendre aux associations l'éducation. Voilà, ça c'est le texte tel qu'il est en l'état. Donc concrètement, qu'est-ce qui, pour le département, c'est pour ça que je dis que c'est pas quand même la loi du grand soir, la réforme territoriale, c'est-à-dire que la compétence générale pour les départements serait supprimée. Deuxième point, les collèges. Le projet de loi proposait de les transférer à la région en disant il y a des endroits où on a collège et lycée, si on fait des travaux dessus, peut-être que c'est plus intelligent de mutualiser tout ça. Bon, les sénateurs ont dit non, nous on veut pas. On veut que les collèges restent au niveau du département, du conseil général. Donc là, c'est en discussion. Ça ne va pas faire partie des points qui vont être discutés à l'Assemblée nationale. Idem sur le transport scolaire et idem sur le transport routier non urbain. Les routes départementales, enfin telles qu'on les appelle, est-ce qu'elles seraient transférées ou pas à la région? Donc ça, évidemment, je suis là-dessus preneuse de vos, de votre avis. Hein. C'est parce que... La solidarité, tout ce qui est RSA, tout ça, ça reste au département, qui est vu comme l'acteur vraiment de proximité, qui a une certaine habitude, qui a des services qui, quand même, fonctionnent bien. Le logement, idem, maintenu sur la compétence du département. Et culture, sport, loisirs, tourisme, vie associative, donc ce que je viens de... les exceptions sur les associations, maintenu aussi pour le département. Enfin, si c'est voté, hein. Alors, la région, c'est là où intervient le grand changement pour la région. Le grand changement pour la région, c'est que c'est elle qui devient le chef de file pour toutes les questions économiques. C'est elle qui, dans le fond, définit... c'est elle qui définit le schéma de développement économique, qui est de dire vers quoi on veut s'orienter. Aujourd'hui, on a, par exemple, il y a quand même deux gros acteurs en Midi-Pyrénées, c'est l'aéronautique et l'agriculture. L'aéronautique, on sait qu'on a 10 ans de carnet de commandes devant soi, mais après, qu'est-ce qu'on fait? C'est effectivement, il y aura un gros sujet qui sera posé là-dessus, et la région devra définir un plan, sorte de plan pour dire, voilà, vers quoi je veux investir, voilà vers quoi je veux orienter les forces économiques ou les forces vives du territoire. C'est elle seule, donc plus du tout ni les, enfin, en tout cas plus les départements, les communautés de communes qui pourront donner des aides aux entreprises. Donc tout sera géré directement par la région, si bien sûr c'est voté. Deuxième volet, elle sera le chef de file en matière d'action de tourisme. Chef de file, ça ne veut pas dire qu'elle est la seule à s'en occuper. Par exemple, Midi-Pyrénées fait une pub au mois de juin pour les grands sites qui passent sur France 2, France 3. Il n'y a que la région qui peut le financer. On sait ce que ça coûte une publicité sur France 2. Donc c'est quand même pas mal qu'elle ait réussi à mettre sur un petit film tout ce qui est quand même superbe dans la région et qu'elle puisse financer cette politique-là. Sachant que, évidemment, les communautés de communes auront toujours, enfin, en tout cas ce seront elles qui sur le terrain pourront le décliner concrètement. Le troisième volet, toujours pour la région, c'est le développement durable et l'aménagement. Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et du territoire, le STRAD, bon, je ne sais pas comment, bref. Alors, il y a un de vos collègues à Négropolis qui m'a dit, mais est-ce qu'avec ça, Sivin, ce ne serait pas passé? Un peu une colle. Mais en tout cas, effectivement, à l'intérieur de ce schéma, il faut qu'on définisse où est-ce qu'on veut faire de l'irrigation, en tout cas, qu'on ait une valeur assez... qu'on pose les principes. Je ne suis pas sûre que, même s'il avait existé, je ne suis pas sûre qu'on n'aurait pas quand même eu Sivin, mais admettons. Alors, ce que mes collègues sénateurs ont ajouté, ils ont souhaité que la région soit aussi assure un service public de l'emploi, c'est-à-dire qu'elle coordonne les différentes initiatives qui peuvent être prises sur le territoire, qu'elle puisse avoir la main là-dessus. Donc ça, c'est aussi à discuter. Tout à l'heure, vous avez le pendant de ce que j'ai dit sur les départements, à la fois pour les collèges, le transport, les transports scolaires et non urbains et la voirie départementale. Donc ça, ça fait partie des points en discussion. Voilà pour quelques informations sur ce projet de loi. Donc,
En fait, la véritable pertinence, c'est le bassin de vie. Alors, on peut regrouper un ou deux ou trois bassins de vie, peu importe. Mais pourquoi vouloir toujours dire c'est 20 000, c'est 15 000, c'est 10 000? On n'en sait rien. C'est le bassin de vie qui est pertinent. Je crois qu'il serait plus pertinent de déterminer effectivement les compétences à exercer par une collectivité, les communautés de communes. Et puis après, je pense quand même que les élus sont bien censés, du moins on essaye de l'être. Et après, les élus, quand ils verront qu'ils ne pourront plus organiser une compétence, exercer une compétence, ou quand ils verront qu'ils l'exercent à des prix trop pénalisants ou trop élevés pour la population, je pense que d'eux-mêmes, ils se regrouperont On a déjà vu par le passé des gens se regrouper quand on a constitué les communautés de communes. Voilà, les communes sont petit à petit venues se regrouper. Donc ça se fera naturellement. Ce que je veux dire par là, c'est que fixer un seuil à partir d'un chiffre, pour moi, ça n'est pas cohérent. La deuxième chose, c'est une réflexion sur les départements. Bon, avec les remarques qu'a fait André Massa tout à l'heure, j'approuve totalement, je pense que j'ai lu quelque part, me semble-t-il, dans la loi, que pour les départements, alors on leur confiait des compétences, mais qu'on se donnait jusqu'en 2020 pour réfléchir, qu'on allait faire une étude sur les départements jusqu'en 2020. Bon, alors, si on est parti de ça, je crois qu'en 2020, ben, vous ferez une 13e loi de décentralisation. Je pense qu'il faut les départements, effectivement, dans les zones rurales, c'est un échelon qui est pertinent. Voilà, il faut avoir le courage de le dire, et je pense qu'il serait bon de donner aux départements une perspective d'avenir au-delà de 2020. La troisième chose, sur les finances. Moi, ça ne me gêne pas d'être contrôlé personnellement. Hein. Ça ne me gêne pas d'être contrôlé. Par contre, ce que j'aimerais, le problème aussi des communes, des petites communes en particulier, c'est que l'État a l'habitude de nous coller des charges supplémentaires sans nous donner les financements. Il y avait un adage il y a 30 ou 40 ans qui disait qui commande paye. Sauf que maintenant, on n'est plus du tout dans cette logique-là. L'État commande, nous colle des charges en plus. Et puis, pendant un certain temps, effectivement, les dotations restaient stables. Maintenant, on nous annonce de fortes diminutions. Donc, on n'est plus du tout dans cette logique-là. Je pense que si la loi prévoit quelque chose, des charges supplémentaires, il faut que les collectivités aient les moyens.
Alors, ce qui est sûr, c'est que dans les tailles des grandes régions européennes, elles sont plutôt proches de 6 millions d'habitants que, comme ce que va être Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Après la mutualisation des moyens, comment on s'organise, notamment avec la Catalogne, si on veut faire des choses. Enfin, voilà, il peut y avoir une évolution qui soit un peu plus pensée dans le temps. Mais comme les régions, c'est quand même des fabrications récentes, hein, c'est 1972, c'est pas tout à fait la même histoire que le département qui a plus de 200 ans. Alors, je voudrais quand même revenir sur la taille des intercommunalités, parce que vous avez entendu qu'il y a différentes opinions qui sont exprimées sur ce sujet. Et moi, il va falloir que je vote. Alors, je peux vous donner mon opinion, mais il y a les deux volets. Il y a le volet bassin de vie, donc ça, c'est plus population, et il y a le volet moyen qu'on veut avoir. C'est-à-dire, plus on est gros, plus on peut avoir... Et ce sont deux logiques qui ne peuvent pas cohabiter sur un territoire comme ici, entre elles. C'est-à-dire que si on veut... ce que vous avez dit, hein, dire est-ce que le pays c'est la bonne échelle avec 49 communes, est-ce qu'il faut aller à Nigropolis, Caussade, enfin tout ça peut s'entendre, hein, mais où est-ce qu'on dit on veut préserver, enfin on veut conserver un espace qui soit le bassin de vie, un espace de décision qui soit le bassin de vie. C'est un peu deux logiques qui peuvent parfois cohabiter, mais ici sur ce territoire il faut. Alors après, on peut toujours dire, on garde l'exception, on fait voter l'exception, et puis vous décidez après. C'est-à-dire, si l'exception est votée, ça ne veut pas dire qu'elle est obligatoire. Elle peut s'appliquer. Non mais il faut toujours se méfier, parce qu'après, les préfets ont une interprétation, même s'ils sont censés interpréter la loi avec discernement, parfois, ils l'interprètent tout court. Donc voilà, on peut toujours se dire qu'on fait passer comme amendement l'idée de garder la possibilité et que cette possibilité est actionnée ou non sur le territoire. Voilà.
Le mag du quartier Rouergue, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même punition. Ciao, ciao, passez une bonne après-midi à l'écoute de Prom, CFM.